Bon, si vous voulez, on va reprendre. Je vais donc continuer l'étude des superpositions linéaires d'état et des interférences quantiques. Et je compte discuter dans cette deuxième séance, d'abord les transferts de cohérence entre paires de niveaux d'un même atome ou entre deux atomes différents, discuter rapidement les effets d'interférence dans les processus multiphotoniques impliquant un atome ou plusieurs atomes, parler aussi des états intriqués qui sont des superpositions d'états de deux systèmes différents et parler de la non-séparabilité et donner quelques exemples de sources de photons intriqués, et enfin parler des cohérences spatiales, de la longueur de cohérence, du lien avec la distribution d'impulsion, de la fragilité des cohérences spatiales. Donc je commence par les transferts de cohérence et par un exemple simple. Bon, ça ne marche pas bien. Les transferts de cohérence, ça veut dire qu'une cohérence existant entre une paire de niveaux atomiques peut passer à une autre paire de niveaux atomiques appartenant au même atome ou un atome différent. Et ce transfert peut être réalisé soit par excitation optique, par émission spontanée, par collision, il y a une très grande variété de phénomènes. Et comment on les voit? On les voit parce que l'arrêt de résonance est soit élargi, soit affiné, et souvent elle est déplacée. Alors, je commence par un exemple très simple, qui est l'émission spontanée d'un oscillateur harmonique. J'ai dessiné ici les niveaux d'énergie d'un oscillateur harmonique, le niveau n, n-1. J'appelle gamma 1 le taux d'émission spontanée du niveau 1 vers le niveau 0. Il est clair à ce moment-là que le taux d'émission spontanée du niveau n vers le niveau n-1, qui est proportionnel au carré de l'élément de matrice de x entre n et n-1, qui est proportionnel à la racine de n, le gamma n va être égal à n fois gamma 1. Et gamma n-1 va être à n-1 fois gamma 1. Si on regarde ça de manière superficielle, on va dire la chose suivante, donc le niveau n se désintègre d'autant plus rapidement que n est plus grand. Et la cohérence, si on raisonne rapidement, la cohérence entre n et n-1 va être démolie avec un taux qui est la demi-somme des taux de n et n-1. Donc on conclut de manière erronée que l'oscillateur harmonique va s'amortir avec un taux qui va être d'autant plus grand que son énergie est plus grande. Ça c'est absurde, on sait que le taux de désexcitation d'un oscillateur harmonique est indépendant de son excitation. Alors, d'où ça vient? Eh bien, ça vient qu'on a oublié les cohérences, et que si on a par exemple une cohérence entre n et n-1, lors d'un processus d'émission spontanée, elle peut être transférée partiellement à la cohérence entre n-1 et n-2, avec un taux qui va être le produit de gamma 1 par cet élément de matrice et cet élément de matrice. Quand on regarde l'équation pilote qui décrit l'émission spontanée, on trouve que d sigma n-1 n-2 sur dt, dû au transfert, ça provient de cette cohérence-là avec un taux qui va être gamma 1 racine de n, racine de n-1. Donc quand elle part, cette cohérence, elle n'est pas complètement perdue, elle est transférée à une autre paire de niveaux qui ont le même écart d'énergie. Et à ce moment-là, l'équation d'évolution de cette cohérence, n-1, n-2, c'est d'une part son évolution libre, bien sûr. Ensuite, le taux de départ vers le bas, elle se désintègre vers le bas avec la demi-somme des taux de gamma n-1 et gamma n-2, et ça c'est ce qu'on garde uniquement avec le raisonnement simpliste, et puis elle est alimentée à partir du haut par le terme que je viens de décrire ici, elle est alimentée à partir de n-1 par ce taux-là. Et si je m'intéresse maintenant à l'équation d'évolution de A, la valeur moyenne de A, qui est l'opérateur de destruction d'un photon, qui est somme sur n de racine de n, n-1, la valeur moyenne de A, c'est une combinaison linéaire des cohérences sigma n, n-1, et donc dA sur dt, c'est sigma sur n, racine de n, d sur dt de sigma n, n-1. Si j'utilise l'équation précédente, et si je somme sur n, je vous fais grâce des calculs, vous pouvez vous reporter à un processus d'interaction, c'est fait en détail, on trouve à ce moment-là que dA sur dt égale moins i oméga 0a moins gamma 1 sur 2a, et on trouve que l'amplitude de l'oscillateur, qui est proportionnel à la partie réelle de A, l'amplitude moyenne de l'oscillateur, est amortie avec un taux gamma sur 2. Et ce taux d'amortissement est indépendant de l'état d'excitation de l'oscillateur, c'est parce que le transfert de cohérence s'effectue entre paires de niveaux. Alors, dans ce cas particulier, Le transfert de cohérence pour l'oscillateur harmonique est particulièrement important parce qu'il s'effectue entre paires de niveaux qui ont la même fréquence propre. Qu'est-ce qui se passe quand les niveaux n'ont pas la même écart? Quand il y a un transfert de cohérence d'une paire de niveaux à une autre paire de niveaux qui n'a pas le même écart d'énergie. À ce moment-là, je prends le problème très simple suivant. Je prends une transition 1/2, 1/2, avec deux sous-niveaux Zeeman dans le bas et deux sous-niveaux Zeeman dans le haut, séparés par oméga F dans le bas, oméga E dans le haut, donc la fréquence de l'armoire en bas et en haut, et par résonance magnétique, on crée une cohérence dans l'état fondamental. Et une excitation optique prend cette cohérence et va la transférer, par exemple, en polarisation pi, va transférer partiellement cette cohérence dans l'état excité entre E plus 1/2 et E plus 1/2, et l'équation de transfert, elle va évoluer, puis après elle va retomber par émission spontanée, elle va retomber dans l'état, cette cohérence dans l'état excité va retomber dans l'état fondamental. Autrement dit, la cohérence dans l'état fondamental est transférée à l'état excité, et puis elle retombe. Question, quelle va être la conséquence de cette circulation de cohérence au cours du cycle de pompage optique? Alors, je passe très rapidement, puisque vous avez les notes sur les calculs. L'évolution de la cohérence dans l'état supérieur, c'est son évolution propre, son amortissement par émission spontanée, et son alimentation à partir de l'état fondamental, de la cohérence dans l'état fondamental, avec un taux qui est proportionnel au taux d'excitation, gamma prime, le taux d'absorption d'un photon, et un coefficient B qui va faire intervenir un produit d'éléments de matrice, un produit de coefficient de Clebsch-Gordan. Alors, si je regarde cette équation, quand c'est la résonance magnétique dans l'état fondamental, cette quantité-là va être modulée à la fréquence oméga, à une fréquence proche de oméga F, et elle a un temps de relaxation dans l'état fondamental qui est beaucoup plus long que le temps de relaxation dans l'état excité. Et ça veut dire que sigma plus F, qui évolue à la fréquence oméga F, et qui subit donc un amortissement négligeable pendant la durée dite de l'état excité, elle, donc on peut considérer ce terme comme un terme constant, oscillant à une fréquence avec une amplitude constante pendant le temps caractéristique avec lequel l'état excité évolue. Autrement dit, l'état excité, qui évolue très vite, est alimenté à partir de l'état fondamental qui évolue beaucoup plus lentement. On a donc une sorte d'approximation adiabatique, et on peut éliminer adiabatiquement les choses qui évoluent vite en négligeant d sigma s sur dt, ou plutôt en le remplaçant par un terme d'évolution à la fréquence oméga f. Et si on écrit ça, on peut trouver donc que cette équation va me décrire le mouvement forcé de sigma plus e à la fréquence de l'état fondamental. Autrement dit, l'état excité qui évolue très vite s'adapte instantanément à l'évolution beaucoup plus lente de l'état fondamental. Quand on fait ça, on va trouver que sigma plus e évolue à la fréquence de l'état fondamental, et avec ce coefficient-là qui est obtenu en résolvant cette équation, en considérant dans cette équation ce terme-là comme un terme source évoluant avec une fréquence constante, non amortie. Alors, une fois que on a trouvé la solution pour sigma plus E, on revient à l'équation pour sigma plus moins de F, et on a une évolution propre, un amortissement par départ vers E, et puis ce qui retombe de l'état excité par émission spontanée, qui est gamma E, le taux d'émission spontanée, là encore un coefficient proportionnel à un produit de deux éléments de matrice. Et si je remplace dans cette équation ce que j'ai trouvé précédemment pour sigma plus E, qui est ici, je réobtiens une équation maintenant où il n'est plus que sigma plus moins F, et en regroupant les parties réelles et imaginaires, je trouve que sigma plus moins F évolue à une fréquence oméga F corrigée par quelque chose et est amorti à un taux gamma prime corrigé par quelque chose. Autrement dit, cette circulation de cohérence diminue le taux d'amortissement d'origine optique parce que ce qui est parti de l'état fondamental vers l'état excité revient partiellement, et d'autre part, ça modifie la fréquence d'évolution. Alors, cet effet, on s'aperçoit d'abord que si on revient à ces formules, on a les deux termes correctifs varient comme une courbe de dispersion et une courbe d'absorption en fonction de oméga E moins oméga F comparé à gamma E. Ces termes correctifs sont négligeables quand la différence entre les deux fréquences propres, oméga E moins oméga F, est grande devant la largeur de l'état excité, qui est la plus grande des deux largeurs. D'accord? Donc la circulation ne s'effectue que si les deux fréquences de l'armoire sont suffisamment proches l'une de l'autre. À la différence de l'oscillateur harmonique, elles sont toujours les mêmes parce que les niveaux sont équidistants. On voit d'autre part que la cohérence arrachée à l'état fondamental lors de l'absorption d'un photon est partiellement restituée. Et on voit, troisièmement, que la fréquence de résonance dans l'état fondamental est déplacée par la lumière, mais à la différence de ce que j'ai expliqué dans le cours, je crois, le cours 3, ce n'est pas un déplacement lumineux dû à une excitation non résonante. Ici, l'excitation est résonante. Ce n'est pas une transition due à des transitions virtuelles, à des absorptions virtuelles et des rémissions virtuelles de photons. C'est des déplacements de fréquence liés à des absorptions résonantes, des transitions réelles d'absorption et de rémission. Alors, effectivement, cet effet a été observé. Je voudrais d'abord l'expliquer. Je voudrais l'expliquer, ça c'est facile à comprendre. Imaginez que vous ayez deux spins dans l'état fondamental, identiques, qui tournent tous les deux à la fréquence de Larmor, oméga F. Et imaginez que l'un d'entre eux le laisse tranquille, et l'autre subit un cycle. Celui qui subit un cycle monte dans l'état excité. Quand il est dans l'état excité, il va tourner à une vitesse différente. Et quand il retombe dans l'état fondamental, comme il a tourné à une vitesse différente de celui qui reste dans l'état fondamental, il va acquérir une avance ou un retard suivant qu'oméga F est plus petit ou plus grand qu'oméga E. Donc il va être déphasé par rapport au premier, et puis si je recommence ce processus de manière régulière dans le temps, sa vitesse moyenne de précession va être augmentée ou ralentie suivant qu'oméga E est plus grand ou plus petit qu'oméga F. Donc vous voyez ce qui se passe, c'est que l'un va sentir un peu ce qui se passe dans l'état excité, il va tourner plus vite dans l'état excité si oméga est plus grand, et quand il retombe, il va acquérir de l'avance, et puis petit à petit, cette avance qu'il acquiert à chaque cycle va lui donner une fréquence de rotation moyenne. Et cet effet peut être observé. Voilà par exemple, je présente juste cette courbe qui montre la courbe de résonance pour deux valeurs différentes de l'intensité du faisceau qui induit ces transitions. Et vous voyez qu'à la différence de ce que j'avais montré il y a quelques semaines, pour le déplacement lumineux habituel dû à des transitions non résonantes, la courbe est déplacée, elle est élargie. Elle est élargie parce que l'atome effectue des transitions de plus en plus rapides entre E et F. Et le déplacement de la résonance, en fonction de oméga moins oméga F, varie bien comme une courbe de dispersion prévue par la théorie. Alors, j'arrive maintenant à un deuxième exemple de transfert qui est en fait le premier. C'est un des plus difficiles à comprendre, mais c'est le premier qui a été observé au laboratoire, dans les années 56. Alors, cet effet est très amusant, il est le suivant. Je reviens à la double résonance. Je vous rappelle que dans le cours numéro 2, je vous ai donné un réseau de courbes de résonance, de double résonance, pour des valeurs croissantes de l'amplitude du champ de radiofréquence. Et on voit ici le renversement de Majorana apparaissant aux intensités importantes du champ de radiofréquence. Voilà un réseau, des courbes de résonance, de double résonance dans l'état excité du mercure pair, des isotopaires du mercure. Et un jour, c'était, je crois, c'est-à-dire qu'Émile Blamont, qui faisait ses courbes, il avait oublié de mettre de la glace dans le queseau de la cellule qui renfermait le mercure, sauf que la pression de vapeur était plus forte, c'était la température ambiante, et à sa grande surprise, d'habitude, les expériences étaient faites à 0 degré, avec le queseau de la cellule dans un bain de glace fondante, il avait oublié de mettre de la glace, et il obtient ce réseau de courbes plus fini. Je me rappelle encore, il va le montrer à Brossette, il dit, retourne faire la manip, tu t'es trompé. Parce que quand on augmente la température, la densité de vapeur augmente, donc on attend que les collisions deviennent plus fréquentes, plus importantes, et donc que les courbes s'élargissent. Avoir des courbes qui s'affinent quand la densité de vapeur augmente, ça a l'air complètement aberrant. On commence à manip plusieurs fois, il n'y a rien à faire, l'effet est là. Et quand on baisse la température à moins 31 degrés dans la zone liquide, on voit au contraire la courbe s'élargir. Donc la courbe s'affine de manière spectaculaire. Ce n'est pas un petit effet. Oui, il y a un affinement d'un facteur 2 ou 3 quand la température augmente. Bon, ça c'était aussi le sujet de diplôme de Marianne Guillochon, qui est devenue Marianne Bouchien. Et ça date donc de 56. Et l'explication a été trouvée par Brossen. Et la suivante, c'est que quand un atome dans la vapeur subit la résonance magnétique, il est dans une superposition linéaire de 3 sous niveau Zeeman. Quand il émet un photon, si la densité de vapeur est suffisamment importante, le photon, avant de sortir de la cellule, peut être réabsorbé par un deuxième atome dans la cellule. Et si la cellule est suffisamment grande, cet effet de réabsorption de la lumière peut être apparaître à des densités de vapeur où les collisions sont encore négligeables. Donc le fait d'avoir augmenté la densité de vapeur fait que les collisions sont encore négligeables, elles ne sont pas encore visibles. Par contre, le photon peut être absorbé, réabsorbé avant de sortir. Et ce qui se passe, c'est que l'atome qui est dans une superposition linéaire delta émet un photon, Et ce photon transmet l'information de phase entre trois sous-niveaux à un deuxième atome qui est excité dans une superposition d'états qui se rappelle de la première. Donc tout se passe comme si le premier atome n'était pas mort. Il a été remplacé par un deuxième qui a une mémoire de sa cohérence de phase, de sa cohérence Zeeman dans l'état excité. Donc tout se passe comme si la durée de vie de l'état excité était plus longue. Et par conséquent, la courbe s'affine. Voilà l'interprétation. Alors, en termes d'aimantation de grandeur transversale, on peut dire que la résonance magnétique crée un moment transversal dans l'état excité du premier atome. Quand le photon est émis et est absorbé par un deuxième atome, quand on moyenne sur toutes les directions possibles du deuxième atome par rapport au premier, il va rester un souvenir de la grandeur transversale qu'avait le premier. Tout se passe comme si l'aimantation transversale n'était pas morte. Alors cet effet a été, vous voyez à ce moment-là, il s'agit d'un transfert de cohérence, non pas à l'intérieur du même atome comme précédemment, mais entre deux atomes différents, et transfert par échange de photons. Et l'étude théorique quantitative de ce phénomène a été faite par Jean-Pierre Barra, donc dans sa thèse, dans ses articles-là, et c'était la première fois, je crois, qu'on introduisait vraiment la matrice densité dans des calculs de pompage optique et de résonance magnétique. Alors quelques années après, Alain Aumont a travaillé aussi sur l'élargissement par collision, il s'est intéressé de manière très très profonde au phénomène de diffusion multiple, il a mis en évidence un très bel effet qui rappelle celui que je viens de décrire juste auparavant sur le déplacement de la résonance. En effet, supposez que, prenez deux atomes, un atome qui tourne comme ceci, dans l'état excité, en phase, et le premier émet un photon et l'autre non. Donc celui qui n'émet pas de photon continue à tourner. Celui qui a émis un photon, le photon part, mais le photon, lui, il ne précède pas dans sa magnétique. Il ne tourne pas, il n'y a pas de moment magnétique. Donc, il va mettre un certain temps à être absorbé par un deuxième atome. C'est le temps de vol d'un atome à l'autre. Donc, il va transmettre au deuxième atome l'information du premier, mais un instant R sur C auparavant. Et pendant ce temps-là, l'atome qui n'a pas émis le photon, lui, aura tourné. Donc, vous voyez que le deuxième atome va être excité avec une aimantation transversale qui est déphasée par rapport au premier. Et ça va donc introduire, comme je l'expliquais tout à l'heure, un déplacement de la résonance. Il y a un autre effet qui est encore aussi important, c'est que le photon qui part de l'un à l'autre traverse une épaisseur de vapeur, et que cette épaisseur de vapeur va introduire une rotation Faraday de la polarisation, qui va également introduire un déphasage entre le premier et le deuxième. Et ça se traduit par le fait que les courbes de résonance magnétique que j'ai montrées tout à l'heure sont non seulement affinées, mais elles sont déplacées. Et Alain Aumont a pu calculer en détail cet effet et l'observer expérimentalement. Donc ça montre là aussi les conséquences, quand on a un transfert de cohérence, les conséquences du fait que l'évolution n'a pas la même vitesse entre l'atome qui ne subit pas le cycle et l'atome qui subit le transfert. Enfin, un dernier exemple de transfert de cohérence, c'est un truc amusant, c'est que je voudrais montrer que les cohérences peuvent être aussi transférées par collision. Une collision, a priori, ça semble complètement déstabilisant, ça casse tout. C'est pas vrai. Les collisions peuvent transférer des cohérences. Il y a en particulier des cohérences, les collisions d'échange de spin qui permettent, quand on a polarisé un alcalin, par des collisions d'échange de spin, de polariser un autre alcalin qui n'est pas excité par la lumière. On oriente l'alcalin A et l'orientation longitudinale se transfère à l'atome B par collision d'échange de spin. Les deux spins sont échangés. Alors ça marche pour l'alimentation longitudinale, parallèle à B. Par contre, pour l'alimentation transversale, si on est dans un champ magnétique important, les deux fréquences de la mort des deux alcalins sont différentes, et donc, comme elles ne sont pas adaptées, ça ne pourra pas se construire, et on a l'impression qu'il ne peut pas y avoir de transfert de cohérence d'un alcalin A à un alcalin B en sens suffisamment fort. Réponse non, parce que si on rend les deux fréquences des alcalins égales en habillant les deux spins par un champ de radiofréquence convenable, on peut trouver des valeurs du champ de radiofréquence où les deux fréquences sont égalisées, à ce moment-là, le transfert est possible. Parce qu'à ce moment-là, les deux moments transversaux tournent à la même vitesse. Et l'idée est très simple. Donc voilà, vous rappelez la fonction de Bessel J0 pour le rubidium et la fonction J0 pour le silicium, qui n'ont pas le même rapport géomagnétique. Et vous voyez qu'il y a des tas de points d'intersection. Et si on se place à des amplitudes du champ telles que les deux fréquences de l'armor sont égalisées, à ce moment-là, si on introduit une aimantation transversale sur le premier, elle va pouvoir passer sur le second parce qu'elle tourne à la même vitesse. Alors, l'expérience consiste à prendre un mélange de césium et de rubidium, On oriente le césium par pompage optique le long de l'axe Z. On fait une impulsion pi sur 2 qui transforme l'aimantation longitudinale en aimantation transversale. On habille les deux atomes par un sondage de fréquence et on détecte l'orientation transversale de l'autre alcalin par la lumière pour diverses valeurs de l'amplitude du sondage de fréquence autour de ce point de croisement. Et on voit apparaître clairement un phénomène résonant. Voilà, on traverse le point de croisement A, B, C, D, E, F. On voit apparaître que quand on est juste au point de croisement, à ce moment-là, l'aimantation transversale introduite sur le césium passe de manière résonante sur le rubidium. Donc vous voyez que tout ceci montre clairement que la cohérence peut se transférer d'un atome à l'autre par absorption, par émission spontanée, par collision, par diffusion multiple. Je passe maintenant à un deuxième paragraphe qui est les processus multiphotoniques. Dans les premières catégories d'effets que je voudrais regarder, un processus multiphotonique, comme il comporte plusieurs états intermédiaires, l'atome passe de l'état initial à l'état final par absorption de plusieurs photons, il y a forcément des états intermédiaires. Et donc, pour aller de l'état initial à l'état final, l'atome va pouvoir suivre plusieurs chemins, et donc ces chemins vont interférer, vont conduire à des phénomènes d'interférence qui peuvent être spectaculaires. Deuxième catégorie d'effets, j'ai non pas un seul atome, mais plusieurs atomes, et on peut se poser la question suivante, j'ai une génération d'une nouvelle onde par génération d'harmonique ou mélange à quatre ondes. Si des nouvelles ondes sont générées dans un processus multiphotonique, est-ce que les ondes venant de plusieurs atomes différents peuvent interférer, oui ou non? Ça aussi, c'est un problème important. Est-ce qu'elles vont pouvoir se bâtir de manière importante ou non? Je vais donner des exemples des deux catégories. D'abord, exemple de première catégorie, un minima d'ionisation multiphotonique entre deux résonances. Si je prends ici, par exemple, une transition à deux photons, une ionisation à deux photons. Alors, à deux photons, donc, l'atome passe intermédiairement, soit par un, soit par deux, avec un désaccord d'énergie qui est positif ici, négatif ici. Et donc, si je prends l'amplitude de la transition à deux photons, il va en avoir plusieurs, et elle va avoir des dénominateurs d'énergie différents, et ces deux, le passage par un ou par deux, les deux amplitudes correspondantes vont interférer soit avec des signes différents, et peuvent s'annuler complètement. Par contre, quand je suis oméga est près de cette énergie, je vais avoir une ionisation très importante. Quand il est près de cette énergie, je vais avoir une ionisation très importante. Alors, effectivement, c'est ce qu'on confirme le calcul. Voici, par exemple, l'ionisation à deux photons du césium, calculée par Bebb. Et vous voyez, ça c'est la probabilité de photoionisation en fonction de l'énergie du photon. On voit apparaître des maxima très très élevés pour l'excitation résonante du niveau 7p, 8p, 9p, 10p. Ça, c'est quand la fréquence d'un photon est résonante avec une transition, avec un niveau excité du césium. Et entre les deux, on voit des minima très très prononcés, parce qu'entre les deux, il y a deux amplitudes qui interfèrent l'une avec un signe plus, l'autre avec un signe moins, elles se détruisent complètement. Alors, cet effet a été recherché, il y a eu beaucoup de controverses, et le groupe de Saclay, comme toujours, a observé des résultats extrêmement propres. Et il a montré clairement, par exemple, ici, l'existence d'une minima d'ionisation, ça c'est la courbe théorique, les points expérimentaux, en dessous de la résonance apparaissant pour 7P1/2. Et alors, il y avait eu des controverses avant parce que des gens n'avaient pas vu ce minimum, et parce qu'il y avait des dimères de césium qui étaient détruits par photoionisation, et ça donnait un signal de ionisation qui était parasite, et qui empêchait de voir ce minimum d'ionisation. Voilà un premier effet. Deuxième, alors, intérêt des résonances, c'est que quand on les calcule, qu'on essaie de comparer la théorie et l'expérience, ça permet de mesurer de manière précise les éléments de matrice qui interviennent dans l'amplitude multiphotonique, et ça permet de tester, disons, l'expression perturbative de l'amplitude de transition. Il y a maintenant, je crois, de manière plus générale, si on regarde un peu la philosophie de cette approche, vous voyez très bien qu'il y a des effets d'interférence qui peuvent exalter ou détruire complètement un processus physique ou chimique donné. Et maintenant, il y a toute une série de recherches qui sont poursuivies par de nombreux chercheurs qui essayent d'utiliser ces processus d'interférence pour bloquer une réaction chimique ou un processus physique dans un sens donné ou pour l'exalter dans un autre sens. Et ce champ de recherche s'appelle maintenant le contrôle cohérent, coherent control. Et c'est examiné de manière de plus en plus sophistiquée. Et pour avoir une idée de ce domaine, je vous renvoie à un article très récent d'août 2003 paru dans Physics Today, où on a plusieurs exemples de réactions qui sont contrôlées de cette manière. Deuxième exemple de cette catégorie, je prends maintenant l'ionisation multiphotonique au voisinage d'une résonance. La fréquence du photon oméga est très proche de celle qui sépare F d'un état excité. Alors, quand je regarde l'amplitude de passer dans le continuum, c'est, je vais avoir une somme de deux termes, un terme où le système passe intermédiairement par E, et à ce moment-là, on va avoir une variation résonante très rapide, et puis le système peut passer intermédiairement par un état qui n'est pas E, qui est un autre état. Et à ce moment-là, ça va me donner un faux qui varie peu quand je varie oméga autour de E. N'empêche que ce fond est là et qui va interférer avec la résonance. Et l'interférence entre un profil résonant et un fond plat, c'est ce qu'on appelle un profil de Fano, qui sont bien connus dans la dissociation d'un état moléculaire. Et des profils de Fano sont donc prévus en photonisation. Un des premiers à avoir prévu ce phénomène, c'est Serge Fennel, Lloyd Armstrong, Beer, dans les années 75, et ça donne un phénomène physique qui est tout à fait analogue aux profils de Fano qui sont observés au voisinage d'un état auto-ionisant, un état auto-ionisant qui peut se démolir de manière résonante, et puis il y a également un autre canal qui n'est pas résonant. Maintenant, je passe à la deuxième catégorie, et j'ai essayé d'interpréter la condition d'accord de phase. Considérons, si vous voulez, un processus multiphotonique au cours duquel un certain nombre de photons sont absorbés, un certain nombre de photons sont émis. L'impulsion gagnée par l'atome au cours d'un processus multiphotonique de ce type, c'est h bar somme sur ki absorbé moins somme sur kf sur kj émis. Il y a des photons qui sont disparus, d'autres qui sont apparus, et la différence de quantité de mouvement va être gagnée par l'atome. Alors, supposez maintenant qu'il y ait deux atomes, A et B, d'impulsion initiale PA et PB, et qui subissent le processus multiphotonique que je viens de considérer ici. Suivant que c'est l'atome A ou l'atome B qui le subit, dans le premier cas, c'est PA qui va passer de PA à PA plus delta P, et dans le deuxième cas, le deuxième atome, ça va passer de PA à PB plus delta P. Donc, suivant que c'est un atome ou l'autre qui le subit, vous voyez que l'état final ne va pas être le même. Ça va être PA plus delta P dans le PB, dans le premier cas, PA, PB plus delta P dans le second. À ce moment-là, les processus n'interfèrent pas. Donc les deux ondes qui sont émises dans ce processus ne peuvent pas interférer parce que les états finaux sont orthogonaux. La seule manière qu'ils aient de pouvoir interférer, c'est que delta P soit nul. Parce que si delta P est nul, à ce moment-là, l'état final est le même PA, PB, PA, PB. Et donc on a sigma KI absorbé doit être égal à sigma KS émis. Et ça, on peut considérer ça comme une condition d'accord de phase. En réalité, il faut aussi tenir compte de l'indice de réfraction du milieu, ce qui modifie un peu cette condition, mais l'esprit est là. La condition d'accord de phase, c'est que le transfert d'impulsion ne doit pas permettre de distinguer lequel des atomes a subi le processus de génération. Alors, ceci permet de discuter très simplement un phénomène physique qui est très très utilisé maintenant en optique non linéaire, qu'on appelle le mélange à quatre ondes dégénérées. On a un système, un milieu atomique, qui est soumis à trois ondes, 1, 2, 3, de même fréquence oméga, donc dégénéré. Hein. Les deux ondes 1 et 2 se propageant dans une direction opposée. Et l'onde 3 étant dans une autre direction. Et on regarde le processus non linéaire, où l'atome absorbe un photon de l'onde 1, émet de manière simulée un photon de l'onde 3, réabsorbe un photon de l'onde 2, et puis il retombe dans l'état fondamental en émettant l'onde 4, et je m'intéresse maintenant à l'onde 4. Alors là, la conservation de l'énergie implique que, bien sûr, le photon 4 doit avoir la même fréquence que les trois autres. C'est pour ça qu'on appelle le mélange à quatre ondes dégénérées. Et la condition d'accord de phase, c'est que les quatre ondes émises ne peuvent interférer que si delta P égale 0, c'est-à-dire si K1 plus K2 qui est égal à 0 puisque les deux ondes sont directement en sens opposé, égale K3 plus K4, donc K4 est égal à moins K3. Donc l'onde générée est opposée, est dans la direction opposée de l'onde K3. Voilà, donc cette onde apparaît dans cette direction. Alors, il y a une autre interprétation qu'on peut donner de ce phénomène, qui est la suivante, qui est aussi très suggestive. On considère l'onde 1 et l'onde 3, elles interfèrent pour donner dans le milieu un réseau de densité atomique, que j'ai dessiné ici, et l'onde 2, que je n'ai pas encore fait intervenir, et diffracter de Bragg sur ce réseau pour donner l'onde 4. Donc deux des ondes dans le réseau et la troisième onde est diffractée de Bragg sur ce réseau. Et alors là, on comprend très bien, à ce moment-là, forcément, elle est diffractée dans la direction opposée de l'onde 3. On peut aussi donner une troisième interprétation. Alors, chaque fois qu'une onde est absorbée, il faut prendre le terme en épuissance moins j oméga t. Chaque fois qu'elle est émise, il faut prendre le terme en épuissance plus j oméga t. Donc, quand... Je regarde maintenant ce qui se passe quand, après interaction avec les trois ondes. Les dipôles induits par les ondes 1 et 2 et 3, c'est le produit des composantes de fréquence positive des deux ondes 1 et 2 par la composante de fréquence négative de l'onde 3, parce que les ondes 1 et 2 sont absorbées, vous rappelez, et l'onde 3 est émise. Alors, l'onde 1 et 2, c'est les puissances moins j oméga t les deux, les puissances ik1r et puissance ik2r, et comme k1 égale moins k2, c'est les puissances moins 2j oméga t, et la composante de fréquence négative de l'onde 3, il faut que je mette un signe moins ici, parce qu'il faut que j'ai plus j oméga t, j'ai donc les puissances moins j, k3r, moins oméga t, moins phi, ou phi est la phase de l'onde 3. Je peux toujours m'arranger à choisir l'origine des temps pour que les ondes 1 et 2 aient la même phase. À ce moment-là, l'onde 3 va avoir une phase phi arbitraire. Et donc, l'onde, ça va me donner un terme en épuissance. Si je multiplie ça par ça, moins 2 plus 1, ça va me donner moins 1, et puis moins j, k3r, donc j'aurai puissance moins j, k3r, plus oméga t, moins phi. Voilà, ça c'est le dipôle induit par ces trois ondes. Alors, la répartition spatiale du dipôle induit par les trois ondes 1, 2, 3, c'est puissance IK3R plus oméga T moins 6, que je viens de calculer, plus le complexe conjugué. Et je le compare maintenant, ça va être aussi l'onde, la dépendance spatiale de l'onde 4 que ce dipôle induit génère, et je la compare à celle de l'onde 3. L'onde 3, c'est puissance IK3R moins oméga T moins phi, plus le complexe conjugué. Quand je compare ces deux expressions, elles se ressemblent beaucoup, et je vois que je passe de l'une à l'autre en changeant t en moins t. En gardant la même phase, mais je change t en moins t. Autrement dit, l'onde qui est générée, l'onde 4 qui est générée, s'obtient de l'onde 3 par renversement du sens du temps. Si je prends l'onde 3 qui se voyage comme ça avec éventuellement une distorsion de phase dans le milieu, l'onde 4 va être le film déroulé en sens inverse de l'onde 3. Et vous voyez, alors c'est là qu'on voit l'intérêt de la conjugaison de phase. Vous voyez que si l'onde 3 a subi des distorsions de phase dans sa propagation dans le milieu, et si j'ai un miroir de conjugaison de phase qui me génère l'onde 4, vous voyez que cette distorsion de phase pourra être corrigée lors de la propagation, et c'est ça qui fait l'intérêt de la conjugaison de phase. Bon, je passe maintenant au troisième exemple, état intriqué. Un état intriqué, c'est un état qui est une superposition linéaire d'états produit de deux systèmes 1 et 2, superposition linéaire qui ne peut pas être écrite sous la forme d'un état 1 d'un état du système 1 que multiplie un état du système 2. Alors il y a de nombreux exemples, deux spins 1 demi dans l'état triplé, 1 plus 2 moins, plus, moins 1 moins 2 plus, dans l'état singulier, pardon, de spin, l'atome et le champ de rayonnement, Fn plus 1 plus En sur racine de 2, qui apparaît par exemple dans des interféromètres, intrication entre degrés de liberté interne et externe, un état Fp plus Ep plus Hbarca sur racine de 2. Des implications plus compliquées faisant intervenir plusieurs atomes, trois spins, les trois dans l'état plus, moins les trois spins dans l'état moins. Alors, il y a toute une série toute une physique très riche qui est relayée aux états intriqués. Je ne rentrerai pas trop dans le détail, parce que je crois que c'est le sujet étudié de manière très très détaillée par Serge Aroff dans son cours de physique quantique. Je ne parlerai pas en particulier des expériences d'électrodynamique quantique en cavité qui permettent d'intriquer un atome, un photon, deux atomes, deux photons. Et je voudrais juste insister sur l'importance des états intriqués sur le plan conceptuel. En effet, ces états intriqués mettent en évidence des corrélations quantiques qui ne sont absolument pas intuitives et qui ont beaucoup intrigué les physiciens comme Einstein. En effet, considérons deux spins 1/2 dans l'état singulier qui s'éloignent, qui ont été produits par exemple dans une cascade radiative et qui s'éloignent très loin l'un de l'autre. Quand on prend l'état singulier de spin, on peut l'écrire plus Z 1 plus Z 2 moins Z, moins 1 moins Z 2 plus N, et on peut prendre aussi la direction X, la direction Y, on peut toujours écrire sous la même forme, quel que soit l'axe de quantification. Et vous voyez très bien à ce moment-là que si on mesure SZ sur le premier, qu'on trouve plus 1, en unité de h bar sur 2, on est sûr de trouver moins 1 sur le second. Et idem pour fx, idem pour fy. Alors là, il y a eu un argument qui a été avancé par Einstein, Podolsky, Rosen, ce qu'on appelle l'argument EPR, en 35, hein. Disons la chose suivante, quand je mesure Sz ou Sx sur le premier spin, je suis sûr du résultat que je vais obtenir sur le deuxième. Mais si les deux spins sont très éloignés l'un de l'autre, ce que dit EPR, si je mesure Sz ou Sx sur le premier, comme je ne vais pas influer ce qui se passe sur le deuxième, dans la vision qu'on a des phénomènes habituels, hein, avec notre intuition habituelle, si je suis sûr du résultat que j'ai trouvé sur le deuxième, c'est qu'il existait avant que je fasse la mesure. Et à ce moment-là, je sais que Sz et Sx ne commutent pas. Donc je ne peux pas connaître à la fois Sz et Sx, donc il y a un défaut dans la mécanique quantique qui ne donne pas une explication de ce phénomène. Et ça a été donc un argument auquel Bohr a répondu, bien sûr, mais qui était extrêmement sérieux. Jusqu'au moment où Bell a fait vraiment, je crois, une contribution qui est certainement la contribution la plus importante en mécanique quantique depuis la création de la mécanique quantique. Donc, Bell admet l'existence qu'il y a des paramètres supplémentaires, lambda, qui ne sont pas décrits par la mécanique quantique, qui ne sont pas contenus dans le formalisme quantique. Et supposer que ces paramètres, lambda, soient caractérisés par une distribution de probabilité, P de lambda, positive et normée. Et je vais voir quelle est la conséquence de ça. Et je suppose en plus que les résultats de mesure sur 1 vont dépendre bien sûr de P de lambda, et ils vont dépendre du dispositif de mesure que je fais sur 1, mais qui ne dépend pas du dispositif de mesure qui est utilisé par l'observateur qui regarde le spin 2, parce que c'est une hypothèse de localité. Ce que je fais sur 1 ne dépend que de ce que mon appareil de mesure sur 1, et non pas de l'appareil de mesure sur 2 qui est très éloigné. Donc si on admet l'existence de ce P de lambda positif et normé et cette hypothèse de localité de l'instrument de mesure, à ce moment-là on peut trouver des contraintes sur les corrélations qu'on peut observer sur les systèmes 1 et 2. Et le résultat spectaculaire, c'est que les prédictions de la mécanique quantique qu'on peut aussi calculer violent ces inégalités. Donc à ce moment-là, ça veut dire tout de suite qu'il devient possible il faut nécessairement confronter expérimentalement les résultats d'une expérience avec les prédictions de la mécanique quantique. Et celle, donc, différente d'une description plus complète et locale des phénomènes en termes de paramètres supplémentaires. Et comme vous le savez, il y a eu toute une série d'expériences de précision croissante, Friedman, Clauser en 72-77, puis Frey-Thompson en 76, puis Aspect, Granger, Roger, Dalibar en 81-82, maintenant le groupe de Zeininger en 95, qui ont montré de manière très convaincante que les inégalités de Bell sont violées. Et c'est donc la mécanique quantique qui a raison. Donc la conclusion, c'est que aussi éloignés qu'ils soient l'un de l'autre, les deux systèmes qui sont dans l'état intriqué ne peuvent pas être considérés comme des entités séparées. Ils forment un tout inséparable. Et cette notion centrale, c'est la non-séparabilité quantique, donc a été un des résultats importants de toutes ces études, et qui montre un petit peu le caractère étrange et le caractère tout à fait contraire à l'intuition qu'on peut avoir de ces états intriqués. Alors, je voudrais juste donner, pour terminer cette partie, les systèmes qui ont été utilisés pour tester. C'était essentiellement une cascade, d'abord étudiée de manière excitée par une décharge, et ensuite dans l'équipe d'Alain Aspect-Orsé, excitée par une transition à deux photons qui permet d'exciter le niveau supérieur et permet donc d'avoir un rapport sur une absorbée beaucoup, beaucoup plus, beaucoup, beaucoup meilleur. Voilà les deux, la cascade 0-1-0 du calcium en polarisation cartésienne X, Y, Z. Et voilà les coefficients correspondants, la généralisation des coefficients de Clebe-Gordan. Et de sorte que l'état des deux photons émis dans une direction Z et moins Z, dans une cascade comme ça, c'est une superposition linéaire de l'état où les deux photons ont une polarisation Y, oméga 1Y, oméga 2Y, plus un état où ils ont tous les deux la polarisation X, oméga 1X, oméga 2x sur racine de 2. Voilà un état intriqué. Il y a depuis quelques années une méthode encore plus efficace pour produire des paires de photons intriqués, c'est ce qu'on appelle la conversion paramétrique de type 2, par exemple dans un cristal de BBO. À ce moment-là, c'est quelque chose qui est un peu le symétrique de la génération d'harmoniques. On a un photon qui est absorbé et deux photons qui sont émis avec bien sûr oméga 1 plus oméga 2 égale oméga. C'est ce qu'on appelle la conversion paramétrique. Évidemment, la conservation de l'énergie implique que ω égale ω1 plus ω2. la conservation de la quantité de mouvement, les conditions d'accord de phase dans un cristal de BBO font que les deux photons ont des polarisations linéaires orthogonales et que leur direction d'émission se répartit sur deux cônes. Alors, je n'entre pas dans les détails, je vous donne un peu une référence par la suite, ou si vous êtes intéressé, vous pourrez regarder ça plus en détail. Voilà les deux cônes dont j'ai parlé. Et si on est dégénéré, oméga égale oméga 2 égale oméga sur 2, les photons émis le long des directions d'intersection de ces deux cônes peuvent avoir l'une ou l'autre polarisation. De sorte que l'état qui est émis dans un processus de conversion paramétrique, c'est l'état émis dans cette direction à une polarisation verticale, l'autre dans cette direction à une polarisation dans le plan perpendiculaire. Ici, au contraire, celui-là dans la polarisation perpendiculaire et celui-ci dans une direction verticale. Ici, ce sont ces deux photons intriqués qui sont émis dans des directions bien définies. Alors que dans une cascade radiative, ils sont émis dans 4π. Donc, l'intérêt de cette méthode, bien sûr, c'est qu'on ne perd pas d'anxoline, on peut récupérer les deux directions dans des fibres optiques, et puis à ce moment-là, on peut faire les dernières manips qui sont mentionnées ici permettent de faire des violations des inégalités de Bell par 100 déviations standard en 5 minutes. Maintenant, ça devient possible de montrer l'expérience dans une expérience d'université, de montrer à des étudiants concrètement la violation des inégalités de Bell. Voilà un très bel exemple d'état de paire de photons intriqués. Enfin, je passe à la dernière partie, cohérence spatiale. Et pour cela, je commence d'abord par parler de la description des variables externes. Je peux parler d'abord de la distribution de position, grand R de petit r, la distribution d'impulsion, grand P de petit p. Delta R, c'est la largeur de R de R, c'est la dispersion des positions. Delta P, la dispersion des impulsions. Si l'état du centre de masse de l'atome est décrit par une fonction d'onde, à ce moment-là, rho égale à psi, psi, à ce moment-là, la distribution des positions, c'est psi de r au carré, et la distribution des impulsions, c'est psi de p, la transformée de Fourier de psi de p en module au carré. Psi tilde de p, c'est la transformée de Fourier de psi de r. Attention, une erreur qu'on fait des fois, très souvent, c'est tentant de le faire cette erreur, psi de r et psi de p sont transformés de Fourier l'un de l'autre, mais r de r et grand p de p ne sont pas transformés de Fourier l'un de l'autre. La distribution d'impulsion n'est pas la transformée de Fourier de la distribution de position. Attention, ça c'est faux. C'est les fonctions d'onde qui sont transformées de Fourier l'un de l'autre, mais les modules au carré de des fonctions d'onde ne sont pas transformées de Fourier l'une de l'autre. Alors, on passe maintenant à un cran suivant. C'est pas seulement les éléments diagonaux de ρ qui sont intéressants, c'est également les éléments non diagonaux, ρ entre R et R'. C'est ce qu'on appelle les cohérences spatiales. Et si ρ est un cas pur psi, à ce moment-là, ρ compris entre R' et R seconde, c'est psi de R', psi étoile de R seconde. Autrement dit, l'argument de la cohérence spatiale entre R et R', c'est la différence des phases des fonctions d'onde entre R' et en R seconde. Alors, il est utile à ce moment-là de dire la chose suivante. Je prends la cohérence spatiale entre deux points séparés de A. Et je vais essayer d'introduire une quantité qui ne dépend que de A en prenant toutes les cohérences spatiales entre deux points séparés de A et en intégrant sur toutes ces cohérences spatiales. Autrement dit, je prends ρ entre R et R plus A et j'intègre sur R en gardant A constant. Donc on va appeler ça la cohérence spatiale globale à une distance A. Alors, il y a une autre manière d'écrire ceci, encore plus suggestif, quand le système est dans un état pur. Si le système est dans un état pur, ρ entre R et R plus A, c'est psi R plus A, c'est donc psi de R, psi étoile de R plus A, intégré sur R. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je prends la fonction d'onde psi de R, je la décale de A, de moins A, pardon, j'obtiens psi de RA, et je prends le produit scalaire. À ce moment-là, la cohérence spatiale globale à une distance petit a, c'est l'intégrale de recouvrement entre le paquet d'ondes psi de r et le paquet d'ondes psi étoile de r translaté de moins a. Autrement dit, je prends le paquet d'ondes, je le translate d'une certaine quantité et j'en prends l'intégrale de recouvrement, et c'est ça la cohérence spatiale globale. Évidemment, si c'est un mélange statistique, je prends la moyenne de ça sur tous les états du mélange. Alors, il y a maintenant une relation très importante entre g de a et p de p. Si vous prenez G de A, vous introduisez la relation de fermeture entre R et ρ, ρ et entre ρ et P plus A, somme de dP et dP prime, si vous utilisez ces 11 éléments de matrice, un petit calcul élémentaire, montre à ce moment-là que G de A, c'est somme de D3P, de P de P puissante moins IPA sur alpha. Autrement dit, la transformée de Fourier de P de P, ce n'est pas R de R, c'est G de A. Autrement dit, la transformée de Fourier de la distribution d'impulsion, c'est la cohérence spatiale globale à une distance petit a. Alors maintenant, ça me permet de définir ce qu'on appelle la longueur de cohérence. La longueur de cohérence avec la largeur de G de A. C'est la distance au bout duquel la cohérence spatiale globale diminue et tend vers zéro. Alors, ne pas confondre psi, la largeur de G de A, avec delta x, la largeur de R de R, la distribution spatiale. Une façon de voir que c'est complètement différent, c'est que la distribution spatiale, la largeur de la distribution spatiale, change au cours du temps parce que le paquet d'ondes s'étale, alors que P de P, pour une particule, P est une constante du mouvement, donc la distribution d'impulsion ne change pas au cours du temps, et donc sa transformée de Fourier non plus, donc la longueur de cohérence est constante au cours du temps, alors que la largeur du paquet d'ondes croît au cours du temps. Donc la longueur de cohérence est quelque chose qui est plus physique, plus profond que la largeur de la distribution spatiale. Alors, analogie optique, et là je crois que c'est intéressant de faire une analogie optique, en optique on sait très bien que si on a un train d'ondes lumineux, souvent ce qu'on fait c'est qu'on prend ce train d'ondes lumineux, qu'on le décale dans le temps, et qu'on en prend le produit scalaire des deux, et à ce moment-là c'est ce qu'on appelle la fonction de corrélation temporelle d'un champ optique. C'est somme de dt et de t et étoile de t plus tau. C'est l'intégrale de recouvrement d'un train d'onde avec le train d'onde translaté dans le temps de moins tau. Et de même qu'il existe une transformée de Fourier entre la distribution d'impulsion et la largeur de la fonction de cohérence globale à une distance A, le théorème de Wiener-Kinchin montre que G de tau, la fonction de corrélation temporelle, c'est la transformée de Fourier de la densité spectrale I de oméga du champ. C'est la même relation, c'est le même type de calcul. Hein. Et ça montre que ça permet de comprendre l'idée qui est derrière la spectroscopie de Fourier. Si on a une raie qui est trop étroite pour être mesurée facilement avec un interféromètre habituel, fabriqué Péro, réseau, prisme, plutôt que d'essayer de mesurer comme ça, la largeur de l'I d'oméga, il vaut mieux passer dans l'espace réciproque en prenant les trains d'ondes optiques, en les décalant dans un Michelson, et en prenant le recouvrement. C'est ce qu'on appelle, c'est l'un et l'autre. Alors à ce moment-là, on mesure G de tau, et on prend la transformée de Fourier de G de tau qui lui donne I de oméga. Autrement dit, on a intérêt à jouer sur deux variables conjuguées. Si l'une est trop difficile à mesurer, c'est qu'en général l'autre est plus facile, et il vaut mieux passer mesurer l'autre et faire une transformée de Fourier pour retrouver la première. Alors ceci, d'ailleurs, cette idée a été développée récemment pour mesurer la distribution d'impulsion d'atomes très froids. Quand la distribution de l'atome est très froide, les méthodes de temps de vol deviennent difficiles à utiliser parce que si on part d'un nuage d'atomes qui a déjà une certaine dimension spatiale, au cours, s'il est très 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 froid, il va s'étaler de manière négligeable pendant le temps de vol et ça va être très difficile à mesurer. Et plutôt que de faire ça, il vaut mieux essayer, si c'est possible, de dédoubler les paquets d'ondes en deux, de décaler l'un par rapport à l'autre, et puis de mesurer l'intégrale de recouvrement et de faire ensuite la transformée de Fourier. Et cette méthode a été utilisée récemment, d'abord pour mesurer la distribution d'impulsion d'atomes d'hélium refroidis par laser à 5 nanokelvin, ça a été le sujet de thèse de Bruno Sobermeier, et puis également dans l'équipe de Bill Phillips pour mesurer la distribution d'impulsion d'un condensat en prenant, décalant d'une quantité donnée, prenant l'intégrale de recouvrement et en faisant ensuite la transformée de Fourier inverse. Alors vous voyez que finalement, quand on parle de position, il y a plusieurs longueurs qu'il faut faire intervenir. Delta x, la dispersion position, xi, h bar sur delta p, la longueur de cohérence, et h sur la valeur moyenne de p, qui est la longueur d'onde de Debreuil. Pas confondre les trois, hein. Trois notions distinctes. Mais la longueur de Debreuil est bien définie uniquement si delta p est beaucoup plus petit que p moyen. C'est-à-dire si lambda de Debreuil est beaucoup plus petit que psi, la longueur de cohérence. Sinon, on introduit uniquement la longueur de cohérence, psi, et par exemple, pour une particule en équilibre thermodynamique à la température T, la longueur de cohérence, on l'appelle longueur d'onde de Debreuil thermique, mais c'est pas ça, parce que P, à ce moment-là, est nul, pour l'impulsion moyenne d'une particule en équilibre thermique est nulle, et la définition précise de la longueur d'onde de Debreuil thermique, c'est pi h bar 2, racine de pi h bar 2, sur m kbt. Et il faut bien voir la différence aussi. je sais que c'est quelque chose qui est un peu troublant au début, on se dit, mais pourquoi on a intérêt à ralentir des atomes? On sait bien que le pouvoir de résolution d'une expérience d'optique atomique va être déterminé par lambda de Broglie. Donc on a intérêt à avoir des atomes rapides pour avoir lambda de Broglie petit. Mais attention, pour bénéficier de ce pouvoir de résolution, il faut pouvoir utiliser une optique ouverte. Et on ne peut utiliser une optique ouverte que si la longueur de cohérence est grande. Donc il faut refroidir les atomes. Donc on a intérêt à prendre des atomes qui ne sont pas de vitesse cosinine, mais il faut que leur delta P soit très petit pour qu'on puisse ensuite faire une optique ouverte et atteindre les limites de résolution définies par la diffraction. Enfin, je termine par quelque chose de très important, qui est la fragilité des cohérences spatiales. Il est clair, qu'on raisonne comme ceci, que tout processus qui va augmenter delta P va augmenter la largeur de P de P et va donc diminuer la largeur de la transformée de Fourier de P de P, c'est-à-dire va diminuer la cohérence spatiale. Donc, quand on fait de l'optique atomique ou de l'interférométrie atomique, il faut veiller absolument à ne pas augmenter la distribution d'impulsion. En particulier, premier exemple, l'émission spontanée. Comme on ne contrôle pas l'émission spontanée, le photon peut être émis dans n'importe quelle direction, et par suite, la distribution d'impulsion le long de n'importe quel axe va augmenter d'une quantité qui est de l'ordre de h bar k. Donc, même si avant l'émission, on a un paquet d'ondes très très. Une longueur de cohérence très très grande, donc un P de P très étroit, après une émission spontanée, P de P va être au moins de h bar k de large, et la longueur de cohérence va passer brusquement de quelque chose de très grand à une valeur qui va être la longueur d'onde du laser, la longueur d'onde de la transition optique. C'est la raison pour laquelle dans les interféromètres atomiques, il faut absolument éviter dans les deux bras tout processus d'émission spontanée susceptible de détériorer la cohérence spatiale. Alors, j'ai étudié très en détail dans le cours 88-89 la perte de cohérence spatiale par l'émission spontanée, et je vous renvoie donc à ce cours pour plus de détails. Je voudrais prendre maintenant un deuxième exemple qui est un peu plus subtil. Je vais prendre maintenant le cas d'une particule atomique qui est diffuse dans un gaz, tampon. Et je vais essayer de comprendre comment ces cohérences spatiales vont être démolies, détruites. Et je vais prendre un atome dans une superposition linéaire de deux paquets d'ondes de largeur sigma, l'un centré en moins A, l'autre centré en plus A. Donc là, j'ai une cohérence spatiale entre deux paquets d'ondes. L'atome peut être là, mais il peut être aussi là. D'accord ? Et sa fonction d'onde, qui est la superposition linéaire 1 sur racine de 2, cet état plus cet état, c'est 1 sur racine de 2, phi de x moins a plus phi de, moins phi de x plus a, où phi de x est un paquet d'ondes qui est centré à l'origine. Quand je prends la transformée Fourier de cette fonction d'onde, comme l'opérateur translation dans l'espace est puissance i px, la fonction d'onde de cet état, ça va être phi de p tilde, la transformée de Fourier de phi de x multiplié puissance moins i p a sur h bar, et la transformée de Fourier de cette fonction d'onde, là, ça va être phi tilde de p puissance plus i p a sur h bar. Donc la transformée de Fourier de ce paquet d'ondes, de cette superposition de deux paquets d'ondes, c'est cette superposition-là, et i puissance i p a moins i puissance moins i p a, ça va falloir passer un sinus, et la distribution d'impulsion, qui est le module au carré de ceci, ça va être 2 phi de p carré, un module, sinus carré, PA sur H bar. Autrement dit, si ma fonction d'onde spatiale est une superposition de deux paquets d'ondes, la distribution d'impulsion va montrer des franges d'interférence séparées de pi H bar sur A, inversement proportionnel à l'écart des deux paquets d'ondes, et avec un contraste égal à 100%. Évidemment, la largeur de cette fonction-là va être H bar sur sigma, où sigma est la largeur de chaque paquet d'ondes. Donc, le fait que j'ai une superposition macroscopique de deux états macroscopiquement séparés va entraîner des franges très étroites dans la distribution d'impulsion. Et si je prends maintenant ma particule qui diffuse dans un gaz, il faut comprendre comment la variation de la distribution d'impulsion due à ce processus de diffusion va démolir ces franges et va donc reconstituer une courbe sans franges qui représentera un mélange statistique des deux paquets d'ondes. Alors ici, le calcul peut être fait de manière très simple. Un atome qui diffuse dans un gaz, je sais que sa dispersion d'impulsion, delta P carré, va croître linéairement en fonction du temps. Autrement dit, si delta P carré est nul à l'instant t égale 0, au bout d'un temps delta P carré va être égal à 2d delta t, où d est le coefficient de diffusion de l'impulsion. Donc ma distribution de la puissance, je peux la considérer comme une superposition de fonctions delta, et chacune de ces fonctions delta, au cours d'un temps delta t, va s'élargir, et après un temps delta t, la distribution de l'impulsion de l'atome va être le produit de convolution de la distribution de l'impulsion de la figure précédente, avec des franges, que multiplie une courbe de largeur delta p égale 2, la racine carrée de ça, 2 d delta t puissance 1/2. Et il est clair que quand la largeur de cette courbe, par laquelle se fait la convolution, devient de l'ordre de la distance entre deux franges, le contrat sera complètement détruit et je n'aurai plus, ce système de franges. Donc, le temps au bout duquel les franges vont disparaître, c'est le temps au bout duquel 2 d delta t va être égal à la racine carrée de 2 delta t va être égal à l'écart entre les franges. Alors, le temps de relaxation de la cohérence entre deux paquets d'ondes, qu'on appelle aussi maintenant le temps de décohérence, va être le que Serge Laroche a étudié très en détail dans un de ses précédents cours, ça va être le temps au bout duquel j'appelle TR ce temps, c'est le temps TR tel que delta P carré qui est égal à 2D TR est égal à l'écart entre l'interfrange, delta, petit delta P carré, c'est-à-dire pi 2 H bar 2 sur A2. Cette équation me donne donc 1 sur TR en fonction de A2, je trouve que 1 sur TR est proportionnel à A2. Donc c'est bien ce que je disais, le taux de destruction de la cohérence va croître comme le carré de la distance entre les paquets d'ondes. Alors, on peut aller un peu plus loin. On peut comparer ce temps de destruction de la cohérence macroscopique entre les deux paquets d'ondes au temps microscopique. Et quel est le temps microscopique qu'on peut associer à ce problème? C'est qu'on a la particule qui diffuse, on sait qu'elle va être, sa vitesse va être amortie, c'est ce qu'on appelle la friction. Elle va être amortie avec un taux gamma coefficient de friction tel que dp sur dt égale moins gamma p. Et on sait qu'il existe une relation entre gamma et d, qui est le théorème de fluctuation-dissipation, établi par Einstein en 1905, un des trois fameux papiers d'Einstein, qui dit que d sur gamma, en écrivant que sous l'effet de la friction qui diminue delta p et de la diffusion qui augmente delta p, le système atteint un état d'équilibre qui est l'état d'équilibre thermique, en écrivant cette condition d'autocohérence, on établit la relation d sur gamma égale 3m kbt. De sorte que si on remet, on va à la formule précédente, et on élimine D ici, pour le remplacer par gamma, au moins de cette formule, on trouve que 1 sur TR, qui est 2D sur pi de H bar 2 à 2, c'est aussi gamma 6M KBT sur pi de H bar 2 à 2, et on revoit apparaître ici pi de H bar 2 sur M KBT, qui est le carré de la longueur d'onde de Debreuil, et on trouve donc que 1 sur TR, le taux de destruction de la cohérence macroscopique est égal à gamma, le taux de destruction microscopique, le taux de relaxation microscopique, que multiplie un rapport sans dimension, qui est A, la distance entre les deux paquets d'ondes divisée par la longueur d'onde de Debreuil thermique. Autrement dit, ce qu'il faut comparer, c'est la distance entre les deux paquets d'ondes à la longueur d'onde de Debreuil thermique. À la température ambiante, la longueur d'onde de Debreuil thermique est de l'ordre de 10-11 mètres. Donc vous voyez que l'augmentation de la dissipation de la cohérence macroscopique va être quelque chose d'énorme et qui va être extrêmement difficile de garder, sur cet exemple concret, qui va être extrêmement difficile de garder des cohérences macroscopiques pendant un temps très long. Donc ceci montre un peu, c'est un problème important qui montre un petit peu comment il est difficile de conserver pendant un temps très long des cohérences entre états dont la distance est grande devant la longueur d'onde de Debreuil thermique, ce qui montre un petit peu la fragilité des cohérences macroscopiques. Bon, je vais m'arrêter là, je n'ai pas dépassé le temps, et donc la semaine prochaine, j'aborderai la manipulation des degrés de liberté externes et les problèmes des refroidissements et du piégeage d'atomes par la vie. Je vous remercie.